On entendit la porte d'entrée se refermer et le bruit d'une voiture, comme si repartait une personne, celle probablement que Swann ne devait pas rencontrer, à qui on avait dit qu'Odette était sortie. Alors, en songeant que rien qu'en venant à une heure où il n'en avait pas l'habitude, il s'était trouvé dérangé tant de choses qu'elle ne voulait pas qu'il sût, il éprouva un sentiment de découragement, presque de détresse. Mais comme il aimait Odette, comme il avait l'habitude de tourner vers elle toutes ses pensées, la pitié qu'il eût pu s'inspirer à lui-même, ce fut pour elle qu'il la ressentit. Et il murmura « Pauvre chérie !» Quand il la quitta, elle prit plusieurs lettres qu'elle avait sur la table et lui demanda s'il ne pourrait pas les mettre à la poste. Il les emporta et, une fois rentré, s'aperçut qu'il avait gardé les lettres sur lui. Il retourna jusqu'à la poste, les tira de sa poche et, avant de les jeter dans la boîte, regarda les adresses. Elles étaient toutes pour des fournisseurs, sauf une pour Forcheville. Il la tenait dans sa main. Il se disait « Si je voyais ce qu'il y a dedans, je saurais comment elle l'appelle, comment elle lui parle, s'il y a quelque chose entre eux. Peut-être même qu'en ne la regardant pas, je commets une indélicatesse à l'égard d'Odette, car c'est la seule manière de me délivrer d'un soupçon peut-être calomnieux pour elle, destiné en tout cas à la faire souffrir, et que rien ne pourrait plus détruire une fois la lettre partie. » Il rentra chez lui en quittant la poste, mais il avait gardé sur lui cette dernière lettre. Il alluma une bougie et en approcha l'enveloppe qu'il n'avait pas osé ouvrir. D'abord, il ne put rien lire, mais l'enveloppe était mince, et en la faisant adhérer à la carte dure qui était incluse, il put, à travers sa transparence, lire les derniers mots. C'était une formule finale très froide. Si, au lieu que ce fût lui qui regarda une lettre adressée à Forcheville, c'eût été Forcheville qui eût lu une lettre adressée à Swann, il aurait pu voir des mots autrement tendres. Il maintint immobile la carte qui dansait dans l'enveloppe plus grande qu'elle, puis, la faisant glisser avec le pouce, en amena successivement les différentes lignes sous la partie de l'enveloppe qui n'était pas doublée, la seule à travers laquelle on pouvait lire. Malgré cela, il ne distinguait pas bien. D'ailleurs, cela ne faisait rien, car il en avait assez vu pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un petit événement sans importance et qui ne touchait nullement à des relations amoureuses. C'était quelque chose qui se rapportait à un oncle d'Odette. Swann avait bien lu au commencement de la ligne « J'ai eu raison », mais ne comprenait pas ce qu'Odette avait eu raison de faire, quand soudain, un mot qu'il n'avait pas pu déchiffrer d'abord apparut et éclaira le sens de la phrase tout entière. « J'ai eu raison d'ouvrir, c'était mon oncle. » « D'ouvrir ? » Alors, Forcheville était là tantôt quand Swann avait sonné et elle l'avait fait partir, d'où le bruit qu'il avait entendu. Alors, il lut toute la lettre. À la fin, elle s'excusait d'avoir agi aussi sans façon avec lui et lui disait qu'il avait oublié ses cigarettes chez elle. La même phrase qu'elle avait écrite à Swann une des premières fois qu'il était venu. Mais pour Swann, elle avait ajouté « Puissiez-vous y avoir laissé votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Pour Forcheville, rien de tel. Aucune allusion qui pût faire supposer une intrigue entre eux. À vrai dire, d'ailleurs, Forcheville était en tout ceci plus trompé que lui, puisqu'Odette lui écrivait pour lui faire croire que le visiteur était son oncle. En somme, c'était lui, Swann, l'homme à qui elle attachait de l'importance et pour qui elle avait congédié l'autre. Et pourtant, s'il n'y avait rien entre Odette et Forcheville, pourquoi n'avoir pas ouvert tout de suite? Pourquoi avoir dit « J'ai bien fait d'ouvrir, c'était mon oncle » Si elle ne faisait rien de mal à ce moment-là, comment Forcheville pourrait-il même s'expliquer qu'elle eût pu ne pas ouvrir? Swann restait là, désolé, confus et pourtant heureux devant cette enveloppe qu'Odette lui avait remise sans crainte, tant était absolue la confiance qu'elle avait en sa délicatesse. Mais à travers le vitrage transparent de laquelle se dévoilait à lui, avec le secret d'un incident qu'il n'aurait jamais cru possible de connaître, un peu de la vie d'Odette, comme dans une étroite section lumineuse pratiquée à même l'inconnu. Puis sa jalousie s'en réjouissait, comme si cette jalousie eût eu une vitalité indépendante, égoïste, vorace de tout ce qui la nourrirait, fût-ce aux dépens de lui-même. Maintenant, elle avait un aliment, et Swann allait pouvoir commencer à s'inquiéter chaque jour des visites qu'Odette avait reçues vers 5 heures, à chercher à apprendre où se trouvait Forcheville à cette heure-là. Car la tendresse de Swann continuait à garder le même caractère que lui avait imprimé dès le début, à la fois l'ignorance où il était de l'emploi des journées d'Odette et la paresse cérébrale qui l'empêchait de suppléer à l'ignorance par l'imagination. Il ne fut pas jaloux d'abord de toute la vie d'Odette, mais des seuls moments où une circonstance, peut-être mal interprétée, l'avait amené à supposer qu'Odette avait pu le tromper. Sa jalousie, comme une pieuvre qui jette une première, puis une seconde, puis une troisième amarre, s'attacha solidement à ce moment de 5 heures du soir, puis à un autre, puis à un autre encore. Mais Swann ne savait pas inventer ses souffrances. Elles n'étaient que le souvenir, la perpétuation d'une souffrance qui lui était venue du dehors. Mais là, tout lui en apportait. Il voulut éloigner Odette de Forcheville, l'emmener quelques jours dans le Midi. Mais il croyait qu'elle était désirée par tous les hommes qui se trouvaient dans l'hôtel et qu'elle-même les désirait. Aussi lui qui, jadis, en voyage, recherchait les gens nouveaux, les assemblées nombreuses, on le voyait sauvage, fuyant la société des hommes, comme si elle l'eût cruellement blessé. Et comment n'aurait-il pas été misanthrope, quand dans tout homme, il voyait un amant possible pour Odette? Et ainsi sa jalousie, plus encore que n'avait fait le goût voluptueux et riant qu'il avait eu d'abord pour Odette, altérait le caractère de Swann et changeait du tout au tout aux yeux des autres l'aspect même des signes extérieurs par lesquels ce caractère se manifestait. Un mois après le jour où il avait lu la lettre adressée par Odette à Forcheville, Swann alla à un dîner que les Verdurin donnaient au bois. Au moment où on se préparait à partir, il remarqua des conciliabules entre Madame Verdurin et plusieurs des invités et crut comprendre qu'on rappelait au pianiste de venir le lendemain à une partie à Chatou. Or, lui, Swann, n'y était pas invité. Les Verdurin n'avaient parlé qu'à demi-voix et en termes vagues, mais le peintre, distrait sans doute, s'écria « Il ne faudra aucune lumière, et qu'il joue la sonate clair de lune dans l'obscurité pour mieux voir s'éclairer les choses. » Madame Verdurin, voyant que Swann était à deux pas, prit cette expression où le désir de faire taire celui qui parle et de garder un air innocent aux yeux de celui qui entend, se neutralise en une nullité intense du regard, où l'immobile signe d'intelligence du complice se dissimule sous les sourires de l'ingénu, et qui enfin, commune à tous ceux qui s'aperçoivent d'une gaffe, la révèle instantanément, sinon à ceux qui la font, du moins à celui qui en est l'objet. Odette eut soudain l'air d'une désespérée qui renonce à lutter contre les difficultés écrasantes de la vie, et Swann comptait anxieusement les minutes qui le séparaient du moment où, après avoir quitté ce restaurant, pendant le retour avec elle, il allait pouvoir lui demander des explications, obtenir qu'elle n'allât pas le lendemain à Chatou ou qu'elle l'y fît inviter, et apaiser dans ses bras l'angoisse qu'il ressentait. Enfin, on demanda les voitures. Madame Verdurin dit à Swann « Alors, adieu, à bientôt, n'est-ce pas ?» Tâchant par l'amabilité du regard et la contrainte du sourire de l'empêcher de penser qu'elle ne lui disait pas, comme elle l'eût toujours fait jusqu'ici, « À demain à Chatou, à après-demain chez moi. » Monsieur et Madame Verdurin firent monter avec eux Forcheville. La voiture de Swann s'était rangée derrière la leur dont il attendait le départ pour faire monter Odette dans la sienne. « Odette, nous vous ramenons !» dit Madame Verdurin. « Nous avons une petite place pour vous à côté de Monsieur de Forcheville. »«
Oui, madame, » répondit Odette.
« Comment ? Mais je croyais que je vous reconduisais ?» s'écria Swann, disant sans dissimulation les mots nécessaires, car la portière était ouverte, les secondes étaient comptées, et il ne pouvait rentrer sans elle dans l'état où il était.
« Mais Madame Verdurin m'a demandé, « Voyons, vous pouvez bien revenir seule, nous vous l'avons laissé assez de fois, » dit Madame Verdurin.
« Mais c'est que j'avais une chose importante à dire à Madame.
« Eh bien, vous la lui écrirez.
« Adieu, » lui dit Odette en lui tendant la main. Il essaya de sourire, mais il avait l'air atterré.
« As-tu vu les façons que Swann se permet maintenant avec nous ?» dit Madame Verdurin à son mari quand ils furent rentrés. « J'ai cru qu'il allait me manger parce que nous ramenions Odette. C'est d'une inconvenance, vraiment. Alors qu'ils disent tout de suite que nous tenons une maison de rendez-vous. Je ne comprends pas qu'Odette supporte des manières pareilles. Il a absolument l'air de dire « Vous m'appartenez ». Je dirai ma manière de penser à Odette, j'espère qu'elle comprendra. »
Et elle ajouta encore un instant après, avec colère,
« Non, mais voyez-vous cette sale bête !»
employant, sans s'en rendre compte, et peut-être en obéissant au même besoin obscur de se justifier, comme Françoise à Combray, quand le poulet ne voulait pas mourir, les mots qu'arrachent les derniers sursauts d'un animal inoffensif qui agonise au paysan qui est en train de l'écraser. Et quand la voiture de Madame Verdurin fut partie et que celle de Swann s'avança, son cocher, le regardant, lui demanda s'il n'était pas malade ou s'il n'était pas arrivé de malheur. Swann le renvoya. Il voulait marcher, et ce fut à pied, par le bois, qu'il rentra. Il parlait seul, à haute voix, et sur le même ton un peu factice qu'il avait pris jusqu'ici quand il détaillait les charmes du petit noyau et exaltait la magnanimité des Verdurins. Mais de même que les propos, les sourires, les baisers d'Odette lui devenaient aussi odieux qu'il les avait trouvés doux, s'ils étaient adressés à d'autres que lui, de même le salon des Verdurins qui, tout à l'heure encore, lui semblait amusant, respirant un goût vrai pour l'art et même une sorte de noblesse morale, maintenant que c'était un autre que lui qu'Odette allait y rencontrer, y aimer librement, lui exhibait ses ridicules, sa sottise, son ignominie. Il se représentait avec dégoût la soirée du lendemain à Chatou. D'abord, cette idée d'aller à Chatou, comme des merciers qui viennent de fermer leur boutique. Vraiment, ces gens sont sublimes de bourgeoisisme. Ils ne doivent pas exister réellement, ils doivent sortir du théâtre de la Biche.
Il y aurait là les Cottard, peut-être Brichot.
Est-ce assez grotesque, cette vie de petites gens qui vivent les uns sur les autres, qui se croiraient perdus, ma parole, s'ils ne se retrouvaient pas tous demain à Chatou ?
Hélas, il y aurait aussi le peintre qui aimait à faire des mariages, qui inviterait Forcheville à venir avec Odette à son atelier. Il voyait Odette avec une toilette trop habillée pour cette partie de campagne, car elle est si vulgaire, et surtout, la pauvre petite, elle est tellement bête.
Il entendait les plaisanteries que ferait Madame Verdurin après dîner, les plaisanteries qui, quel que fût l'ennuyeux qu'elles eussent pour cible, l'avaient toujours amusé parce qu'il voyait Odette en rire avec lui, presque en lui. Maintenant, il sentait que c'était peut-être de lui qu'on allait faire rire Odette. « Quelle gaieté fétide !» disait-il en donnant à sa bouche une expression de dégoût si forte qu'il avait lui-même la sensation musculaire de sa grimace jusque dans son cou révulsé contre le col de sa chemise. Et comment une créature dont le visage est fait à l'image de Dieu peut-elle trouver matière à rire dans ces plaisanteries nauséabondes ? Toute narine un peu délicate se détournerait avec horreur pour ne pas se laisser offusquer par de tels relents.
C'est vraiment incroyable de penser qu'un être humain peut ne pas comprendre qu'en se permettant un sourire à l'égard d'un semblable qui lui a tendu loyalement la main, il se dégrade jusqu'à une fange d'où il ne sera plus possible à la meilleure volonté du monde de jamais le relever. J'habite à trop de milliers de mètres d'altitude, au-dessus des bas-fonds où clapotent et clabodent de tels sales papotages, pour que je puisse être éclaboussé par les plaisanteries d'une verdurin, s'écria-t-il en relevant la tête, en redressant fièrement son corps en arrière. Dieu m'est témoin que j'ai sincèrement voulu tirer Odette de là et l'élever dans une atmosphère plus noble et plus pure. Mais la patience humaine a des bornes et la mienne est à bout, se dit-il, comme si cette mission d'arracher Odette à une atmosphère de sarcasme datait de plus longtemps que de quelques minutes, et comme s'il ne se l'était pas donné seulement depuis qu'il pensait que ses sarcasmes l'avaient peut-être lui-même pour objet et tentait de détacher Odette de lui. Il voyait le pianiste prêt à jouer la sonate claire de lune et les mines de Madame Verdurin s'effrayant du mal que la musique de Beethoven allait faire à ses nerfs. « Idiote, menteuse !» s'écria-t-il. « Et ça croit aimer l'art !» Elle dirait à Odette, après lui avoir insinué adroitement quelques mots louangeurs pour Forcheville, comme elle avait fait si souvent pour lui, « Vous allez faire une petite place à côté de vous à monsieur de Forcheville. » « Dans l'obscurité, ma querelle, entremetteuse !» Entremetteuse, c'était le nom qu'il donnait aussi à la musique qui les convierait à se taire, à rêver ensemble, à se regarder, à se prendre la main. Il trouvait du bon à la sévérité contre les arts de Platon, de Bossuet et de la vieille éducation française. En somme, la vie qu'on menait chez les Verdurin et qu'il avait appelée si souvent la vraie vie lui semblait la pire de toutes et leur petit noyau le dernier des milieux. « C'est vraiment, disait-il, ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute que le texte auguste ne se réfère au Verdurin. Au fond, comme les gens du monde, dont on peut médire, mais qui tout de même sont autre chose que ces bandes de voyous, montrent leur profonde sagesse en refusant de les connaître, d'y salir même le bout de leurs doigts. Quelle divination dans ce noli me tangere du faubourg Saint-Germain. Il avait quitté depuis bien longtemps les allées du bois. Il était presque arrivé chez lui que, pas encore dégrisé de sa douleur et de la verve d'insincérité dont les intonations menteuses, la sonorité artificielle de sa propre voix, lui versaient d'instant en instant plus abondamment l'ivresse, il continuait encore à pérorer tout haut dans le silence de la nuit. « Les gens du monde ont leurs défauts que personne ne reconnaît mieux que moi, mais enfin, ce sont tout de même des gens avec qui certaines choses sont impossibles. Telle femme élégante que j'ai connue était loin d'être parfaite, mais enfin il y avait tout de même chez elle un fond de délicatesse, une loyauté dans les procédés qui l'aurait rendue, quoi qu'il arrivât, incapable d'une félonie, et qui suffisent à mettre des abîmes entre elle et une mégère comme la Verdurin. Verdurin, quel nom! Ah, on peut dire qu'ils sont complets, qu'ils sont beaux dans leur genre. Dieu merci, il n'était que temps de ne plus condescendre à la promiscuité avec cette infamie, avec ses ordures. Mais, comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore au Verdurin n'auraient pas suffi, mais s'il n'avait pas favorisé et protégé son amour, à provoquer chez Swann cette ivresse où il s'attendrissait sur leur magnanimité et qui, même propagée à travers d'autres personnes, ne pouvait lui venir que d'Odette. De même, l'immoralité, eût-elle été réelle, qu'il trouvait aujourd'hui au Verdurin, aurait été impuissante s'il n'avait pas invité Odette avec Forcheville et sans lui, à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie. Et sans doute la voix de Swann était plus clairvoyante que lui-même quand elle se refusait à prononcer ces mots pleins de dégoût pour le milieu Verdurin et de la joie d'en avoir fini avec lui, autrement que sur un ton factice.
et comme s'ils étaient choisis plutôt pour assouvir sa colère que pour exprimer sa pensée. Celle-ci, en effet, pendant qu'il se livrait à ses invectives, était probablement, sans qu'il s'en aperçût, occupée d'un objet tout à fait différent, car une fois arrivé chez lui, à peine eut-il refermé la porte cochère que brusquement il se frappa le front, et, la faisant rouvrir, ressortit, en s'écriant d'une voix naturelle cette fois, « Je crois que j'ai trouvé le moyen de me faire inviter demain au dîner de Chatou. » Mais le moyen devait être mauvais, car Swann ne fut pas invité. Le docteur Cottard, qui, appelé en province pour un cas grave, n'avait pas vu les Verdurin depuis plusieurs jours et n'avait pu aller à Chatou, dit le lendemain de ce dîner, en se mettant à table avec eux, « Mais est-ce que nous ne verrons pas Monsieur Swann ce soir ? Il est bien ce qu'on appelle un ami personnel du... »« Mais j'espère bien que non !» s'écria Madame Verdurin. « Dieu nous en préserve ! Il est assommant, bête et mal élevé !» Cottard, à ces mots, manifesta en même temps son étonnement et sa soumission, comme devant une vérité contraire à tout ce qu'il avait cru jusque-là, mais d'une évidence irrésistible. Et, baissant d'un air ému et peureux son nez dans son assiette, il se contenta de répondre « Ah !» en traversant à reculons, dans sa retraite repliée en bon ordre jusqu'au fond de lui-même, le long d'une gamme descendante, tout le registre de sa voix. Et il ne fut plus question de Swann chez les Verdurin. Alors ce salon qui avait réuni Swann et Odette devint un obstacle à leur rendez-vous. Elle ne lui disait plus comme au premier temps de leur amour « Nous nous verrons en tout cas demain soir, il y a un souper chez les Verdurin. Mais nous ne pourrons pas nous voir demain soir, il y a un souper chez les Verdurin. » Ou bien les Verdurin devaient l'emmener à l'opéra comique, voir une nuit de Cléopâtre. Et Swann lisait dans les yeux d'Odette cet effroi qui lui demanda de n'y pas aller, que naguère il n'aurait pu se retenir de baiser au passage sur le visage de sa maîtresse, et qui maintenant l'exaspérait. « Ce n'est pas de la colère, pourtant, se disait-il à lui-même, que j'éprouve en voyant l'envie qu'elle a d'aller picorer dans cette musique stercoraire. C'est du chagrin, non pas certes pour moi, mais pour elle. » Du chagrin de voir qu'après avoir vécu plus de 6 mois en contact quotidien avec moi, elle n'a pas su devenir assez une autre pour éliminer spontanément Victor Massé. Surtout, pour ne pas être arrivée à comprendre qu'il y a des soirs où un être d'une essence un peu délicate doit savoir renoncer à un plaisir quand on le lui demande. Elle devrait savoir dire « je n'irai pas », ne fût-ce que par intelligence, puisque c'est sur sa réponse qu'on classera une fois pour toutes sa qualité d'âme. Et s'étant persuadé à lui-même que c'était seulement, en effet, pour pouvoir porter un jugement plus favorable sur la valeur spirituelle d'Odette, qu'il désirait que ce soir-là elle restât avec lui au lieu d'aller à l'opéra comique, il lui tenait le même raisonnement, au même degré d'insincérité qu'à soi-même, et même à un degré de plus. Car alors il obéissait aussi au désir de la prendre par l'amour-propre. « Je te jure, lui disait-il, quelques instants avant qu'elle partît pour le théâtre, qu'en te demandant de ne pas sortir, tous mes souhaits, si j'étais égoïste, seraient pour que tu me refuses, car j'ai 1000 choses à faire ce soir, et je me trouverais moi-même prise au piège et bien ennuyée si, contre toute attente, tu me réponds que tu n'iras pas. Mais mes occupations, mes plaisirs, ne sont pas tout. Je dois penser à toi. Il peut venir un jour où, me voyant à jamais détaché de toi, tu auras le droit de me reprocher de ne pas t'avoir averti dans les minutes décisives où je sentais que j'allais porter sur toi un de ces jugements sévères auxquels l'amour ne résiste pas longtemps. Vois-tu, une nuit de Cléopâtre, quel titre, n'est rien dans la circonstance. Ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment tu es cet être qui est au dernier rang de l'esprit et même du charme, l'être méprisable qui n'est pas capable de renoncer à un plaisir. Alors, si tu es cela, comment pourrait-on t'aimer? Car tu n'es même pas une personne,
une créature définie et imparfaite, mais du moins perfectible. Tu es une eau informe qui coule selon la pente qu'on lui offre. Un poisson sans mémoire et sans réflexion qui, tant qu'il vivra dans son aquarium, se heurtera 100 fois par jour contre le vitrage qu'il continuera à prendre pour de l'eau. Comprends-tu que ta réponse, je ne dis pas, aura pour effet que je cesserai de t'aimer immédiatement, bien entendu, mais te rendra moins séduisante à mes yeux quand je comprendrai que tu n'es pas une personne, que tu es au-dessous de toutes les choses et ne sais te placer au-dessus d'aucune. Évidemment, j'aurais mieux aimé te demander comme une chose sans importance de renoncer à une nuit de Cléopâtre, puisque tu m'obliges à me souiller les lèvres de ce nom abject, dans l'espoir que tu irais cependant. Mais, décidé à tenir un tel compte, à tirer de telles conséquences de ta réponse, j'ai trouvé plus loyal de t'en prévenir. Odette, depuis un moment, donnait des signes d'émotion et d'incertitude. À défaut du sens de ce discours, elle comprenait qu'il pouvait rentrer dans le genre commun des laus et scènes de reproche ou de supplication dont l'habitude qu'elle avait des hommes lui permettait, sans s'attacher aux détails des mots, de conclure qu'il ne les prononcerait pas s'il n'était pas amoureux, que du moment qu'ils étaient amoureux, il était inutile de leur obéir, qu'ils ne le seraient que plus après. Aussi aurait-elle écouté Swann avec le plus grand calme, si elle n'avait vu que l'heure passait et que pour peu qu'il parlât encore quelque temps, elle allait, comme elle le lui dit avec un sourire tendre, obstiné et confus, finir par manquer l'ouverture. D'autres fois, il lui disait que ce qui plus que tout ferait qu'il cesserait de l'aimer, c'est qu'elle ne voulut pas renoncer à mentir. Même au simple point de vue de la coquetterie, lui disait-il, ne comprends-tu donc pas combien tu perds de ta séduction en t'abaissant à mentir ? Par un aveu, combien de fautes tu pourrais racheter ? Vraiment, tu es bien moins intelligente que je ne croyais. Mais c'est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu'elle avait de ne pas mentir. Elles auraient pu ruiner chez Odette un système général du mensonge. Mais Odette n'en possédait pas. Elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait que Swann ignorât quelque chose qu'elle avait fait, de ne pas le lui dire. Ainsi, le mensonge était pour elle un expédient d'ordre particulier, et ce qui seul pouvait décider si elle devait s'en servir ou avouer la vérité, c'était une raison d'ordre particulier aussi, la chance plus ou moins grande qu'il y avait pour que Swann pût découvrir qu'elle n'avait pas dit la vérité.